Radio Foot International, spécial UEFA Euro 2024 avec Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au deuxième rendez-vous de Radio Foot International après cette deuxième demi-finale de l'Euro qui se déroule en Allemagne. Et la joie anglaise dans le stade de Dortmund, l'Angleterre en finale de cet Euro. Et ça sera face à l'Espagne. Les Anglais viennent de battre les Néerlandais sur le score de 2-1. Holly Watkins a inscrit ce deuxième but anglais quelques secondes avant la fin du match. Et l'équipe de Gareth Southgate se retrouve donc à jouer de nouveau le titre comme en 2021 à Londres, c'est-à-dire au précédent Euro. Et ce sera donc à Berlin dimanche soir.
Le football, des fois, il faut pas trop le compliquer. Hein. T'es bon ou t'es pas bon. Voilà, j'étais pas bon et voilà, on rentre à la maison. C'est simple.
Et c'est vrai, c'est simple le football quand on perd. Et vive les vacances pour les Bleus éliminés. Donc déjà en vacances, ils sont arrivés dans l'après-midi à Paris après leur élimination en demi-finale de l'Euro. Une défense française qui a été fendue par les assauts espagnols. A-t-on vu les limites du système de jeu de Didier Deschamps, un sélectionneur confirmé cet après-midi par son président? Et puis reverra-t-on un jour Kylian Mbappé à son meilleur niveau? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions et de vous en apporter plus aussi de réponses. Bonsoir Salim Oumgali.
Bonsoir Annie Gassier, bonsoir à toutes et à tous.
Heureux. Un homme heureux.
Mais comme toujours quand je suis sur Radio Foot International.
Mais encore plus là.
Peut-être, hein, effectivement.
Peut-être, hein, ouais. On l'a entendu, nous, son cri de joie au but de Watkins. Bonsoir, Yoro Mangara.
Bonsoir, Annie. Bonsoir à tous.
Bon, vous avez un beau polo orange, alors je ne vous demanderai rien. Mais bon, on est quand même tous heureux d'être ici. David Finzel qui m'aide à préparer cette émission et Mathieu De Gueldre à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
C'est des trucs de Marseillais, mais au moins 75 000. Xavi Simons qui récupère le ballon dans les pieds de Nicolas. La frappe ouverte, le score de Xavi Simons, c'est magnifique ce qu'il a fait. 7 minutes de jeu ici à Dortmund, déjà l'ouverture du score. Et penalty sifflé par Félix Mayer.
Allez, Harry Kane pour remettre l'équipe d'Angleterre à hauteur. C'est parti, c'est frappé, c'est marqué.
C'est parfaitement tiré de la part d'Harry Kane, le capitaine de cette Angleterre. Et attention, Holly Watkins qui est trouvé dans la surface, qui va frapper, qui va marquer. Holly Watkins, le sauveur de l'Angleterre. L'attaquant d'Aston Villa, trouvé dans la surface, qui croise sa frappe, ils sont tous sur la pelouse, les supporters. Harry Kane qui saute sur Holly Watkins, les troisième gardiens, Ramsdale, tout le monde est là. 2-1 pour l'Angleterre qui se dirige vers la finale de cet Euro.
Et oui, ils sont bien finalistes, les Anglais, et pour la deuxième fois consécutive, hein, on le disait, 3 ans après cette finale malheureuse à Wembley, devant leur public, et ils retrouveront donc l'Espagne. Le match avait pourtant bien commencé pour les Oranges. Vous vous êtes inquiété de ce jeu et de la performance anglaise, Salim Boumgali, ce soir?
On évoquait...
Ou à aucun moment?
Le truc, on a été ensemble, hein, on le dit aux éditeurs, on était ensemble en train de regarder le match. C'est vrai que parfois je faisais mine d'être détendu, alors que peut-être au fond je l'étais un peu moins.
Mais ils ont ouvert le score en plus, les Hollandais,
avec une
exactement.
Magnifique de Simons. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au final, l'égalisation rapide, puisqu'elle intervient 10 minutes après l'égalisation de Kane, bah, permet aussi de pas permettre aux Néerlandais de trop s'emballer, j'ai envie de dire. Et après, le jeu pratiqué par l'Angleterre, en fait, avant le match, j'aurais pu être inquiet et on blaguait ou pas d'ailleurs en se disant on va peut-être s'endormir pendant 2 heures. Mais au final, l'Angleterre, et on aura l'occasion d'évoquer un peu plus, a réalisé son meilleur match dans ce tournoi. Il y a eu du jeu, il y a eu des actions, il y a eu des joueurs qui se sont détachés. Bref, l'Angleterre a enfin produit du jeu et ça donne ce résultat.
Mmh, ouais, et dans le temps réglementaire. Et finalement, on les voyait quand même peiner un peu les Anglais physiquement en fin de match. Comment voyez-vous la performance anglaise, Yoro?
Je crois qu'ils ont fait leur meilleur match depuis le début du tournoi. On a enfin pu voir les joueurs, parce qu'il y a du talent dans cette équipe, pouvoir jouer entre eux. Et puis, je crois qu'à un moment donné, entre la 55e et la 70e, il y a eu un coup de moins bien, un coup de mou dans cette équipe. Après, il faut également, quand il n'est pas bon, on le dit, mais quand il est bon, il faut le dire également, il a injecté du sang neuf Gareth Southgate et ça a permis à cette équipe anglaise de marquer un deuxième but.
Je rappelle, Southgate, il est régulièrement critiqué en Angleterre.
On en a parlé encore hier dans Radio Foot.
Depuis qu'il est à la tête de cette équipe, je le rappelle, il a fait demi-finale de la Coupe du Monde 2018, c'est pas rien. Il fait finale du dernier Euro 2021. Il fait quart de finale 2022 qui ne doit jamais perdre face à l'équipe de France avec le pénalty de Kane qui n'est pas encore retombé, le ballon a priori.
Ce soir, il l'a marqué.
Et il atteint la finale. Le truc, c'est que là où il est critiqué, encore une fois, c'est sur le jeu. Parce qu'on lui dit régulièrement à Gareth Southgate, comme en France, on aura l'occasion d'évoquer, voilà. T'as un potentiel de dingue sur toutes les lignes, notamment au milieu et devant. Et au final, tu nous produis un jeu qui n'est pas beau, qui n'est pas bon à voir. Ben là, aujourd'hui, il a, j'ai envie de dire, répondu à ses détracteurs. Le jeu était intéressant. Les joueurs, Foden sur le côté droit, la première période de Foden est remarquable. Kane a été très intéressant. Les entrées ont été bonnes. Ses choix ont été payants. Oui, il faut bien l'admettre aussi. Palmer et Watkins. Bref, ben Southgate, la victoire et la qualif, elle est en bonne partie pour lui aussi.
Mais il n'y a pas que ça. Le simple fait de mettre ces deux latéraux très haut pour obliger Cody Gakpo à défendre, ça aussi, c'est
il a changé de système, il a osé.
Exactement.
Ça a fonctionné.
On va tout de suite aller rejoindre notre envoyé spécial dans ce fameux
stade. Est-ce qu'il a un peu de voix encore
de Dortmund? Alors, je ne sais pas, mais on va l'aider à en avoir.
Martin Guez.
Martin Guez, est-ce que vous avez encore de la voix?
Salut Annie, salut Salim, salut Yoro. Ouais, il m'en reste un petit peu.
On a eu peur.
Aussi fort que Yoro sur le deuxième but de Watkins. Alors, pas toujours flatteur à la réécoute, mais c'est le moment d'émotion qu'on avait, qu'on est en train d'en vivre un sacré là aussi. Je vous donne l'image. Il y avait voilà des milliers et des milliers de maillots orange. Ils sont tous partis. Les joueurs n'ont pas traîné non plus. Il y a un petit décrassage là pour les joueurs qui n'ont pas joué. Mais il y a tous les supporters anglais qui sont restés, tous les drapeaux qui sont encore là et qui chantent depuis 15-20 minutes. Voilà le Don't Take Me Home. Bon, ils nous ont passé tout le répertoire. On a commencé par Sweet Caroline, It's Coming Home. On a eu aussi Feel From Desire, bien sûr. Et puis là, ça nous chante.
C'est très original, hein, évidemment.
Exactement. C'est pas très original, mais beau à voir. Ils sont tous debout, beaucoup torse nu.
Et ils sont tous frais, évidemment. Ils ont vu que de l'eau.
Il y en a des très frais. On a rencontré Lily, là, juste devant nous, qui n'arrête pas de chanter, qui cherche déjà une place pour la finale.
Et le problème, c'est qu'ils sont frais depuis midi, en fait. C'est ça le souci.
Ils sont frais depuis 3 jours, peut-être même 4. Je suis arrivé dimanche à Dortmund. Je pense qu'il y en a qui ont commencé à. Qui n'ont pas bougé de leur terrasse, qui sont juste venus ce soir pour le match. Mais ils ont bien fait de venir. Il y en a un qui a bien fait de venir aussi, qui est à côté de moi. C'est Bruno Constant qui nous salue aussi. Hein.
Ah, mais oui, bien sûr, notre ami.
Tout à fait, qui est venu ce soir.
Ed Sheeran est dans les tribunes. Hein. Il s'est permis de faire un petit concert.
J'ai demandé de venir nous chanter la chantonnette dans Radio Foot, ouais, bien sûr.
On l'a vu tout à l'heure en gros plan sur les images qui retransmettaient le match, mais c'est vrai qu'il est allé voir les joueurs.
Absolument.
Il leur a fait un petit concert en acoustique. On avait entendu un extrait dans la première partie de Radio Foot, et ça, c'est très sympa de la part de ce chanteur qui a l'âge de tous ces joueurs, ou presque. En tout cas,
cet an. Déjà fait en 2021, ouais.
Oui.
Ça leur porte bonheur finalement pour aller jusqu'en finale.
Alors, pour aller jusqu'en finale.
Chantonner pour gagner enfin cet euro.
Pour aller jusqu'en finale, effectivement. Martin, ce match, on a vu, hein, il avait bien commencé pour les Hollandais. J'imagine que le bus orange garé dans les tribunes de Dortmund a dû apprécier. Et ensuite, que s'est-il passé selon vous côté hollandais?
Bah surtout, je pense qu'on a vu un vrai très très beau match de football. On avait un peu peur, hein, on avait vécu une semi-purge, on va dire, en quart de finale avec l'Angleterre contre la Suisse. Une première période soporifique, une première frappe cadrée à l'heure de jeu et pour la Suisse. Et puis un seul tir cadré dans le temps réglementaire, c'était Bukayo Saka sur le but. Là, on est parti sur vraiment d'autres standards. On va dire que les Pays-Bas, ils sont très bien partis, effectivement. Il y a un Xavi Simons, mais qui a illuminé cette rencontre, qui était absolument partout, qui a gagné un nombre de ballons incroyable, qui a défendu, qui a attaqué, qui a dribblé, qui a marqué. Il faut aller le voir, ce but, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez juste écouté à la radio, il est magnifique. Et puis après, ça s'est un petit peu déréglé. On va dire qu'ils n'ont pas pu déployer leur jeu comme comme prévu. Ils ont aussi Memphis Depay qui est sorti très tôt dans la rencontre. Ils ont sorti Malen à la pause. Ils ont pas mal dû se réorganiser. Néanmoins, c'est quand même eux qui ont dominé globalement la deuxième période. Il n'y a pas eu de très grosse occasion à part Van Dijk à la retombée d'un coup franc de Vermaan qui a mis en difficulté Jordan Pickford qui a dû sortir un gros arrêt. La deuxième est plutôt pour les Néerlandais. Les Anglais ont été plutôt recroquevillés. On n'a pas beaucoup vu Jude Bellingham par exemple ce soir qui a été un peu plus en difficulté, mais on a vu Ollie Watkins sorti du banc qui a remplacé Harry Kane. Et puis vraiment c'était une scène absolument incroyable, il se retourne, c'est un des seuls dans cette rencontre à battre De Vrij sur un contre un comme ça. Il se retourne, il frappe, c'est croisé, c'est dedans. Et là il y a tout le banc anglais, enfin vraiment il y a une sorte de communion. Ils ont tous sauté, les gardiens, les masseurs, les physios, enfin il manquait juste Southgate sur le haut du tas. Mais c'est assez incroyable de voir comment il a réussi à fédérer tout ce groupe. On sait que l'Angleterre ça a parfois été un empilement de très bons joueurs, mais il y avait le clan de Liverpool, le clan d'Arsenal, le clan de Manchester City, le clan d'United. Là vraiment tout le monde se bat les uns pour les autres, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment une sacrée symbiose entre cette équipe et leurs supporters.
Oui, on a eu les secrets hein, cette réussite, c'est vivre ensemble. Voilà, les fléchettes, la petite bière et puis le golf.
Comme au pub, au final.
Les échecs. Oui, exactement. un pub de luxe dans lequel ils sont enfermés. Yoro, il parlait des changements qui ont été effectués par les deux sélectionneurs dans ce match, Martin. Côté néerlandais, vous vous posiez quelques questions quand même sur les choix de Koeman.
Oui, parce que quand tu perds ton attaquant blessé, tu fais rentrer au milieu défensif.
Depay en l'occurrence.
Je parle de Memphis
Depay. Memphis Depay.
Mais tout d'un coup, on a vu cette équipe baisser en intensité.
Non, mais surtout, il ne met pas un attaquant.
Oui, c'est Vermaan qui le remplace au milieu de terrain.
Mais en deuxième mi-temps, quand il lance Weghorst, on a vu que cette équipe se rebuffait. Absolument. Parce que quand même, moi, je trouve que quand tu démarres avec un attaquant qui se blesse, mais un attaquant, arrêtez d'être frileux. Et la preuve, vous avez perdu. Et vous avez joué 25, voire 30 minutes sur 90 minutes, mais ce n'est pas suffisant.
Il l'avait remplacé par Daniel Malen, qui était passé de l'aile droite à la pointe. Mais on a vu que ce n'était pas un poste dans lequel il était très à l'aise. Daniel Malen, d'ailleurs, c'est lui qui est sorti à la pause pour Weghorst. Donc c'est vrai qu'il a un peu tâtonné ce soir, Ronald Koeman. Mais voilà, il y a quand même des joueurs qui sont sortis sacrément du lot. On pense vraiment à Xavi Simons. Bon, Cody Gakpo a pas mal tenté, il a pas beaucoup réussi face à Kai Walker qui a réalisé un gros match. Mais voilà, faut la féliciter quand même cette équipe hollandaise. Ils étaient en reconstruction, ils ont loupé quelques échéances récemment. On se souvient, ils n'étaient pas là à l'Euro 2016, pas à la Coupe du Monde 2018.
Oui, Ligue des Nations aussi, absent.
Ligue des Nations, ils sont arrivés en finale en 2019, mais voilà, on sent que ça.
Après, ils sont descendus.
Exactement, on sent que ça quelque chose aussi est en construction en tout cas, et ils vont être intéressants à voir dans les années à venir.
Salim, côté anglais par contre, c'est coaching gagnant.
Le truc Gareth Southgate, je vous le dis, il est régulièrement critiqué. Et là,
c'est pour sa frilosité notamment.
Absolument, et là, sortir Foden, qui il est vrai était moins bon en seconde période par rapport à la première, qui a été si bon d'ailleurs en première, il le sort. Sortir Harry Kane, votre capitaine, il l'avait déjà fait lors d'une rencontre précédente, il n'avait pas hésité à le faire, là il le fait aussi, et faire entrer Cole Palmer, je rappelle, plus de 20 buts marqués en championnat cette saison en Première Ligue avec Chelsea, pour sa première saison à Chelsea, il le met sur le côté droit, et fait rentrer Ollie Watkins. Pour rappel pour nos auditeurs, Ollie Watkins, donc attaquant d'Aston Villa, il y a 4 ans il était à Brentford, Villa avait mis 30 millions d'euros pour l'acheter, on se disait, est-ce qu'il va s'adapter à la Première Ligue? Oui, il s'est adapté petit à petit à la Première Ligue. Cette année, c'est 19 buts marqués en Première Ligue, 13 passes décisives. C'est avec Erling Haaland, 32 buts donc compilés. C'est le joueur qui a été impliqué sur le plus de buts en Première Ligue cette saison, devant les Salah, De Bruyne, tous ces joueurs-là. C'est vous dire le niveau d'Ollie Watkins. Si Aston Villa est en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est grâce à lui notamment.
Je suis d'accord.
Donc, ce qu'il fait, en tout cas son geste, c'est un geste d'attaquant exceptionnel, parce qu'il va vite, son contrôle en une touche et la manière dont il se retourne, la frappe, elle ne peut que passer là. Si elle passe 5 cm à côté, c'est contré. Et c'est incroyable ce qu'il fait, et chapeau, Gareth Southgate. C'est incroyable que je dise ça. Mais oui.
C'est vrai qu'il ne nous avait pas régalé jusque-là, Gareth Southgate. On se souvient du quart de finale. On
va du quart, du huitième, de la phase de poule, on peut y aller.
Voilà, on peut retourner à il y a longtemps. On va dire qu'ils ne lui en tiennent pas rigueur, les supporters anglais ici. Ils nous ont tous dit tout le long, on s'en fout complètement de comment on joue, on veut juste gagner. Voilà, on rappelle qu'ils n'ont jamais gagné l'Euro, cette équipe d'Angleterre. On va aussi souligner qu'ils arrivent à retourner des montagnes à chaque fois. En huitième de finale, ils étaient menés. Ils marquent à la 95e, le retour acrobatique de Jude Bellingham, la tête d'Harry Kane en prolongation. En quart de finale, ils étaient étaient menés. Le but de Brelem Bolo, il faut un éclair de génie de Bukayo Saka pour égaliser, aller au tir au but et enfin réussir une séance de tir au but, hein, parce qu'à l'Euro, ils n'avaient pas réussi ça depuis 1996. Et puis derrière, voilà, aujourd'hui, ils étaient menés, encore une fois, Xavi Simons. On va dire qu'en demi-finale, il ne faut pas marquer trop tôt un but, c'est pas gagné d'avance.
C'est un parcours de champions, ça.
Souvent, on se fait renverser.
On revoit des images de ce match. Il y a eu un moment aussi, Martin, nous, on est en train de le revoir sur l'écran, mais Salim, c'est ce but qu'aurait dû inscrire Phil Foden.
Le
c'est
but vrai. De la soirée.
Absolument incroyable.
C'est vrai, Phil Foden.
Il nous a fait une Lamine Yamal, mais poteau sortant.
Oui, notamment, effectivement, avec sa frappe exceptionnelle. Ouais. Vous avez raison, Martin, qui touche le montant. Et puis également, quelques instants auparavant, quand il est sur le côté droit, il arrive à se faufiler dans cette surface, à dribbler le gardien et sa frappe du pied droit. En bout de course, donc elle est toute douce et Dumfries réussit à l'arrêter sur sa ligne. Mais c'est vrai que Foden, comme par hasard, lorsqu'il est repositionné sur son côté droit de
ou qu'il se va se positionner tout seul. Hein,
absolument, vous avez raison. Mais comme par hasard, il est beaucoup plus intéressant. Et en première période, c'est ce qu'il a fait souvent. Et il a été mais si bon sur ce côté, vraiment.
Est très critiqué hein, pourtant Foden dans cet Euro. On n'a pas arrêté de dire qu'il avait trop joué de matchs avec Manchester City, que passer de Guardiola à Southgate, c'était fallait se mouiller la nuque un petit peu pour en termes de système de jeu, que c'était quand même un peu compliqué pour lui dans cet Euro. Mais c'est vrai que la première période, elle a été de très très haute facture et Phil Foden, c'est le bonhomme de cette première période.
J'insiste beaucoup, il a été très bon parce que par rapport à toutes les autres rencontres de Foden sur ce tournoi, c'est la première fois où je l'ai vu à droite, en face à son poste de prédilection. Quoi.
Peut-être qu'il va comprendre.
Il a beaucoup fait hein, venir chercher le ballon sur la droite contre la Suisse, mais c'est vrai que c'était Bukayo Saka surtout qui a fait vivre un cauchemar à Ebisher, qui avait beaucoup pris le ballon, mais effectivement, il s'était un petit peu gêné. Aujourd'hui, on a moins vu Saka, on a plus vu Foden, mais il y a une alternance. Hein. Saka, c'était le quart de finale, le huitième, c'était pour Bellingham, la demi, c'était pour Foden, à qui la finale.
Yoro, vous vouliez ajouter quelque chose?
Moi, je... C'est un joueur qui m'a...
Vous êtes un lion content quand même, il y a trois lions en finale.
Trois lions en finale,
Non mais je vous le dis, il a un polo très orange quand même.
Non, il est blanc en fait, ce polo,
il est orange.
En tout cas, j'aimerais bien qu'enfin cette équipe anglaise soulève cette coupe.
Je vous confirme, je voudrais bien.
Au fait, leur parcours...
La soulève, ils ne l'ont jamais soulevée.
Oui, enfin, parce que quand même, faire deux finales d'affilée, ça me rappelle le Sénégal qui perd en 2019 une finale et en 2021 qui remporte la Coupe.
La France qui gagne en 2018 et qui fait la finale en 2022.
C'est ça. Donc, enfin, peut-être une étoile sur cette équipe. Franchement...
Ils ont une étoile, eux, de champion du monde 1966.
Coupe du monde, voilà. Exactement. Mais depuis le début du tournoi, quand vous voyez, surtout dans le secteur névralgique au milieu de terrain, au départ, c'était Trent. Il avait
Trent Alexander-Arnold
dans ce double pivot, il n'a pas marché. Il le sort. Deuxième match, Gallagher, il n'a pas marché. Troisième match, Maynou. Depuis, il s'est installé.
Absolument.
C'est-à-dire, il était en train de chercher son équipe. Apparemment, aujourd'hui, il a trouvé son équipe, il a trouvé son 11. Il sait les changements qu'il doit faire pour apporter du sang neuf. Et cette équipe, franchement, après avoir vécu ce qu'elle a vécu en phase de poule, ce sera... très difficile pour cette équipe.
Ce qui va être intéressant maintenant pour cette équipe anglaise, c'est que là, donc dans ce système-là, avec trois défenseurs centraux, hein, très souvent on les a vus à trois défenseurs centraux, sauf sur certaines séquences, est-ce qu'il va oser faire ça contre l'Espagne ? C'est pas le même adversaire, c'est pas la même qualité de jeu, etc., etc. Est-ce qu'il va revenir à quelque chose assez base, j'ai envie de dire, défensive, qu'on a pu voir lors des premiers matchs, donc un jeu beaucoup plus rustre, mais au final qui a fonctionné, puisque l'Angleterre a réussi à avancer dans ce tournoi, ou est-ce qu'il va oser, comme il l'a fait sur cette demi-finale, encore une fois, l'adversaire n'est pas le même.
Mais je crois qu'ils jouent à 3 quand ils sont en phase de possession.
Absolument.
Mais quand ils sont en phase défensive,
même à 5,
ouais. ils jouent à 4, voire à 5. C'est donc, je crois qu'il ne va pas laisser la porte ouverte à cette équipe espagnole.
Croisons les doigts.
Qui est très technique. J'étais hier au stade, j'ai vu cette équipe espagnole jouer. C'est magnifique. Franchement, c'est une parenthèse. Mais l'Angleterre a de quoi faire parce qu'au moins, elle arrivait à marquer des buts.
Est-ce que vous faites un parallèle entre le parcours de l'Angleterre en 2021 et celui-ci, Salim, ou pas vraiment ?
Pas totalement. En fait, l'Angleterre a eu une chance, rappelez-vous, lors du parcours 2021, à part un match, vous savez, c'était cet Euro qui était dans 10 pays différents. qui étaient dans de nombreux pays différents.
Oui, ben on s'en souvient
et
bien.
À part un seul match qui s'était joué en Italie.
En temps de Covid ou post-Covid.
Sinon, l'Angleterre avait joué tous ses matchs à domicile.
Oui.
C'était quand même une chance assez affolante pour l'équipe d'Angleterre.
Et ils l'ont pas saisi.
Qui avait réussi à avancer avec cette défaite en finale. Là, le truc, c'est
c'était
que.
C'était l'idée comme... de Platini, hein.
Absolument. c'est pas la meilleure. Le truc, c'est que. Qu'on le veuille ou pas, il y a quand même 3 ans de plus, j'ai envie de dire 3 ans d'expérience en plus pour ces joueurs, malgré tout, et même pour Southgate, mais surtout pour les joueurs. Pour moi, c'est pas la même. Il y a des séquences quand même qui sont plus intéressantes. J'insiste, ce match que l'on a vu ce soir face aux Pays-Bas, je l'ai pas vu lors de l'Euro 2021 il y a 3 ans. Je l'ai pas vu. Même lors de la Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde 2022, si, face à la France quand même.
Face au Sénégal aussi, c'était
et face au Sénégal, vous avez raison. Mais dans la Coupe du Monde 2018, même pas. Donc, je vois des choses. Là, j'ai vu ce soir des choses que je n'avais pas vues lors de l'Euro 2021 et de ce parcours à domicile.
Bon, alors, apparemment, vu l'ambiance et vu le bus orange comme les vainqueurs du soir, Martin, une belle soirée vous attend du côté de Dortmund.
Alors, il y en a un qui va se consoler, là, qui est à 10 mètres de moi, c'est Cody Gakpo, qui est en train d'embrasser son papa, sa maman et sa petite amie, j'imagine, puisque il y a des gestes d'affection. Voilà, ils sont en train de quitter aussi les tribunes, ouais,
et suivre les traces des
joueurs. Ouais, effectivement, ils vont rentrer à la maison, mais ils auront fait un sacré euro, les Anglais. Voilà, on ne les arrêtera pas de chanter. Je pense qu'on les aura jusqu'au bout de la nuit. Moi, je vous ai souligné, rebondir sur ce que disait aussi Salim, on a découvert quelques joueurs dans cet euro côté anglais. On connaît beaucoup d'absents. Voilà, on a beaucoup parlé des Jadon Sancho, des Grealish, des Marcus Rashford. On a découvert quelques joueurs. Moi, j'avais envie de parler quand même de Marc Guéhi, qu'on ne connaissait pas beaucoup avant la compétition, le natif d'Abidjan, enfin ceux qui suivent la première ligne et Crystal Palace pardon, le connaissent, les autres un petit peu moins. Voilà, il a été encore taille patron ce soir avec ses belles chaussures roses. On parlait de Kobbie Mainoo qu'on a découvert cette saison avec Manchester United. Il est presque vieux à 19 ans si on regarde Lamine Yamal en face, mais voilà, c'est assez incroyable ce qu'il dégage aussi jeune. Et puis effectivement, est-ce que c'est pas l'année de la maturité finalement pour cette équipe qui était en finale il y a 3 ans, ils auraient peut-être pu gagner la Coupe du Monde s'ils avaient passé une équipe qui s'appelle l'équipe de France et qui avait beaucoup beaucoup souffert en quart de finale. Et on se souvient du pénalty raté d'Harry Kane, mais voilà, est-ce que
ce soir
pas,
il l'a marqué
exactement. Et puis il l'a très bien tiré, Harry Kane. Puis il a pas fait une bonne deuxième, mais il a fait une sacrée première période. Il y a eu une frappe de loin à la 25e, il y a eu cette reprise de volée au-dessus qui amène le pénalty réussi. Non, il s'est sacrément démené et d'ailleurs il a égalé le meilleur buteur anglais dans un euro, c'était Alan Shearer avec 7 buts. Ils sont à égalité désormais les deux hommes. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. On disait, on chantait pour le Sénégal en 2021. Est-ce qu'on va pas chanter cette fois-ci c'est la bonne pour les Anglais cette année?
Eh bien, il va
vous souvenez forcément Yoro Mangara de ce tube chez vous.
Ouais, oui.
Il va falloir attendre jusqu'à Berlin en tout cas. Ces Anglais, ils retrouveront les Espagnols. Une équipe qui, quand même, on la trouve plutôt en ballante cette équipe.
Ah, oui.
Elle a assuré le spectacle, elle au moins, depuis le début, puisqu'elle a gagné ses 6 matchs. Et hier, dans le vestiaire, on va écouter la joie qu'il chantait autour de l'homme du match, à savoir évidemment le jeune Lamine Yamal. Écoutez, c'est une chanson qui s'appelle Potra Selvaje de Isabel Ayoun. Voilà, c'est le tube à la mode du côté de l'Espagne et qui est devenu celui de l'équipe espagnole. On a tous connu ça un peu avec nos sélections respectives pour ce qui est de tout cela. En tout cas, merci beaucoup Martin Guez d'avoir été, d'avoir suivi d'aussi près les supporters. J'espère que leur lexique de prononciation... en néerlandais, oui, parce que...
Au moins, j'aurais pu aller réviser. Je suis débarrassé de mes dispensés de cours de néerlandais.
Exactement.
Juste à se remettre à l'anglais et à l'espagnol, des langues qu'on connaît un peu mieux. LV1 et LV2. Voilà.
Jusqu'au prochain. Merci beaucoup.
Et vous avez le bonjour de Woodvegorst, qui est vraiment à 5 mètres devant moi, là.
Ah oui.
Avec toute sa petite famille.
Qu'il est fort, Woodvegorst. Ouais. Mais vraiment.
Le joueur de Burnley, encore un amoureux de Salim Bongali.
On espère le voir bientôt, en tout cas, de nouveau sur les pelouses. Merci beaucoup, Martin, et à
merci
très vite.
Merci beaucoup à vous, bonne émission.
Merci. On va continuer dans Radio Foot International et on va retrouver nos amis de l'après-midi parce qu'on a évidemment évoqué les Bleus. Des Bleus qui ont été donc éliminés hier soir, victimes, peut-on dire, de leurs limites et qui avaient fait l'objet d'une parodie qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qu'on trouve sur Internet. Et c'était suite alors à la qualification de ces Français en demi-finale. Écoutez.
Même Griezmann et Mbappé ne s'en remettent qu'à une seule chose, la chatte à Dédé. Gagner sans marquer, pénalty CSC, la chatte à Dédé. Une défense en béton, une attaque en carton, la chatte à Dédé. Seulement se qualifier, sans jamais rien montrer, la chatte à Dédé. Jusqu'à l'éternité.
Voilà, sous l'angle humoristique, bien sûr, avec cette équipe de France. C'était après la qualification pour la demi-finale. Je ne sais pas ce qu'ils chanteront. Ensuite, on cherchera sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est vrai que c'est hier soir, après la rencontre, Antoine Grenier a rencontré des supporters, notamment Julien et Nelson. Vous allez entendre à la fois déçus et amers.
On a un peu dégoûté, quoi. On s'y attendait pas, on a marqué si tôt, on était tous heureux. On prend le but direct après, 5 minutes après l'égalisation, on prend le 2-1 qui est un ballon contré, donc un but bête.
Enfin, c'est de la bouillie tout ça.
On a manqué de réalisme devant le but, faut être réaliste, on a vraiment manqué de réalisme devant le but.
Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais.
Kylian Mbappé, on ne sait pas ce qui s'est passé, il était en manque de forme, mais il n'y a pas que lui, il y a Griezmann, il y a Dembélé. On ne mettait pas les buts au fond et même en deuxième mi-temps, on l'a vu, on s'est créé des occasions. Malheureusement, c'est pas rentré. Voilà, c'est le foot.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Au 17. Hop.
Ces supporters qui suivaient les Français là-bas jusqu'en Allemagne, ils ont bien pointé les limites de l'équipe de France, Étienne.
Oui, ils ont dû pas mal s'ennuyer quand même au stade. Ils ont eu beaucoup de mérite. D'ailleurs, il y avait de nombreux supporters français, beaucoup moins que les Néerlandais, mais beaucoup plus que d'habitude qui étaient en Allemagne. Et franchement, ils ne se sont pas régalés, nous non plus. On s'est vraiment ennuyés pendant tout le tournoi avec l'équipe de France. On a le sentiment qu'avec Didier Deschamps, il n'y a pas de plan B. Donc, il n'a qu'un seul système. C'est on attend un bloc bas, trois milieux défensifs, et puis on va lancer les flèches devant. Sauf que les flèches devant, elles ne sont plus capables de rien faire, en tout cas depuis le début de la compétition. Donc, c'était un jeu totalement stérile.
On la connaît, l'équipe de France, depuis le temps. Hein,
et
les adversaires.
Et il n'a pas du tout été modifié pendant la compétition, même s'il change de système de jeu à peu près à chaque match. Mais finalement, le principe, c'est un peu toujours le même, un jeu assez défensif, en essayant de faire la différence, mais on ne fait plus la différence.
Ibrahima, votre regard sur cette équipe de France et sur ce match qui vous a frustré ?
Très frustré. Moi, j'étais très optimiste. Je l'ai dit hier au micro. J'étais persuadé que cette équipe de France, elle allait gagner contre l'Espagne parce que depuis un moment, et je l'avais dit hier, c'est que l'équipe de France, elle se contente d'être un petit peu meilleure que l'adversaire ou alors de ne pas faire exister l'adversaire pour se qualifier. C'était le cas où ils ont fait avec la Belgique. C'était le cas contre le Portugal. Donc, je me suis dit, sur le même schéma, ça allait marcher, sur la même philosophie, ça allait marcher contre cette équipe d'Espagne. Sauf que là, on est tombé sur une équipe qui, elle, avait un vrai projet et qui allait jouer de cette façon, quoi qu'il se passe, et qui savait exactement ce qu'il attendait, ce qui n'était peut-être pas le cas des autres adversaires, qui avaient la crainte de l'équipe de France. Là, on avait une équipe qui se sentait supérieure et qui ne craignait pas l'équipe de France et qui a joué tout simplement. C'est Mbappé qui le disait, le football, c'est simple, soit on est bon, soit on n'est pas bon. Et l'équipe de France n'était pas bonne et l'équipe d'Espagne était très forte et surtout, elle savait qu'elle était en capacité, en jouant son jeu, de battre cette équipe de France.
Est-ce qu'on a vu les limites de cette équipe de France hier soir, Chérif ?
Les limites, elles étaient claires. Plutôt que de parler du système Deschamps ou le style Deschamps, parce qu'il n'y en a pas, c'est plutôt l'équipe de Deschamps, cette équipe de Deschamps. Moi, j'ai toujours été indulgent avec elle, tant qu'elle avait au milieu, ce qu'on appelle dans le cœur, le réacteur, Paul Pogba et Griezmann. Donc, moi, j'acquiesçais, même quand ce n'était pas très plaisant. Pogba est parti, on a beaucoup perdu. Et là, il ne nous restait plus que Griezmann comme élément créateur qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. On a vu dès le début qu'il ne serait pas là. Et notre dernière arme fatale, c'était Mbappé, qui non plus, bon, on connaît la blessure, ceci, cela, la méforme et tout. À partir de là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Alors, ça passe, mais c'est passé. Il faut bien préciser une chose, c'est qu'on tape sur Deschamps, la nullité, le néant, tout ça, je veux bien. Sauf que les joueurs, ils adhèrent. Regardez la joie de l'équipe de France après la Belgique et le Portugal, mais ils sont heureux comme tout.
Non, et Ibrahima nous disait...
Heureusement quand même que t'es heureux quand tu te qualifies à l'Euro quart et en demi-finale.
Non,
donc là, je pense que n'importe quel joueur, quand il gagne au tir au but, il est content.
Ils adhèrent, c'est pire. Être joueur, bah évidemment qu'ils vont être contents quand ils se qualifient, mais le système, ils l'ont validé.
Ils adhèrent, je ne suis pas si sûr que toi, parce que quand tu écoutes, et ça a eu d'ailleurs, à mon avis, ça lui a coûté un petit peu quelque chose, Antoine Griezmann au début de la compétition, qui dit « on a un jeu chiant ». Excusez-moi l'expression, mais c'est Antoine Griezmann qui l'a dit.
Quelque part, il le revendique. Hein.
Oui, c'est ça lui plaît pas non plus tant que ça. S'il peut jouer autrement,
il serait pas... Pas que Griezmann, Tchouaméni, en conférence de presse, et Fofana, où on leur demande, il dit, nous, on s'en fout, en fait. On s'en fout de bien jouer ou quoi que ce soit. Ce qui nous importe, c'est...
Regarde la célébration de Dembélé quand il reçoit le prix de joueur du match. Ils sont heureux.
Bah, tant mieux, quand même. Quand on gagne, heureusement qu'on est heureux.
Mais ça veut dire qu'ils adhèrent, ils valident.
Allons en Allemagne. Avec celui qui a suivi les Bleus depuis le début de 7 euros et qui était encore hier dans le stade.
Antoine Grenier,
live von der 2024 Euro in München. Danke.
Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Ami, bonjour tout le monde. J'ai entendu le petit montage de David Finzel sur les supporters que j'ai eu hier. J'y ai vu une référence à ma grande vadrouille à moi à travers l'Allemagne.
Exact.
J'ai trouvé ça gentil.
Oui, hein, n'est-ce pas ? Vous allez de ville en ville, du nord au sud, d'est en ouest. Antoine, est-ce que pour vous, cette équipe de France se hisser en demi-finale, finalement, elle était chanceuse ?
En fait, avec le recul, en essayant d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, je me suis dit que c'était incroyable à quel point, dans ces moments de déception, on se rendait compte que cette équipe de France, contre toute évidence, on la croit capable de réaliser quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'elle a très très mal joué pendant quasiment tous ses matchs de l'Euro, mais quand même, face à une équipe comme l'Espagne, tout le monde se disait, c'est pas possible, à un moment, il va se passer quelque chose, parce que les Bleus ont créé un monstre, en fait, quand on, un peu à la Federer 2008, entre 2004 et 2008, où il était au-dessus du monde tennistique avant que Rafael Nadal n'arrive. Cette équipe de France, elle fait des finales, alors elle les perd, mais elle a pour elle d'alimenter en permanence cette chronique de l'espoir de ses supporters. Ça s'est arrêté hier, en demi-finale. Évidemment, sur un goût vraiment, vraiment d'inachevé, parce que on a le sentiment que les Bleus ont jamais vraiment débuté leur Euro, que leur Euro a débuté avant même d'avoir réellement commencé, et avec le sentiment qu'ils n'auront rien montré pendant tous ces matchs.
Alors malheureusement, ils n'auront rien montré, et on a vu Kylian Mbappé hier, on a eu un espoir sur sa passe décisive, et il jouait sans masque, ce masque qui l'avait tant dérangé. Moi, j'aimerais vous poser une question, Ibrahima, votre sentiment. Est-ce que vous pensez qu'on reverra un jour Kylian Mbappé comme on l'a aimé et comme on l'a vu, et comment le talent qu'il avait, ses accélérations, c'est pratiquement mettre des buts les yeux fermés, j'exagère un peu. Alors, il a gardé le record de vitesse de cet Euro, 36,5 km/h. Il fut à 38 à la Coupe du Monde en 2018.
Moi, j'ai envie de dire que ça dépend de lui. Mais ce qui est bien pour Mbappé, c'est que là, comme il l'a dit hier, c'est qu'il y a un changement de vie qui va arriver. Et là, il arrive dans une institution, excusez-moi, qui s'appelle le Real Madrid. C'est-à-dire que tout ce qui a été permis de faire au Paris Saint-Germain, où lui aussi s'est un petit peu perdu dedans, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'extra-sportif et dans toutes ces guéguerres qu'il y a eu, c'est au Real Madrid. Ça, c'est pas permis. Et surtout, il a parlé du besoin d'avoir une préparation physique. Il va l'avoir. Il va être dans un cadre où il a envie d'être, donc il va être heureux. Donc moi, je pense qu'avec tout ça mis en place, on retrouvera, oui, un Kylian Mbappé.
Oui.
Je commence à avoir des petites inquiétudes sur la suite de sa carrière. Déjà, sur les deux dernières saisons, je l'ai trouvé en stagnation. Il n'a pas reculé, mais il n'a pas progressé. Et il y a, au niveau de l'envie, Moi, je le voyais plus fort d'année en année. Je me rappelle encore l'année dernière quand il se proposait de faire à la fois l'Euro et ensuite les JO. Je me suis dit, il est jeune, il a le talent et le coffre pour ça. Je me pose des questions. Je me suis souvenu qu'il a commencé très tôt à 17 ans, que c'est très tôt, qu'on peut s'user très vite. Je repensais à Eden Hazard, qui, pareil, a commencé vers 17 ans, qui était explosif, qui a fait des saisons surchargées. Je commence à me poser des questions sur Mbappé, pas sur son talent, parce que ça ne s'évanouit pas du jour au lendemain.
Mais sur l'usure.
L'usure psychologique.
Étienne ?
Moi, je pense que Mbappé, son grand souci, c'est qu'il veut être plusieurs footballeurs à la fois. Il a une qualité, Kylian Mbappé, parce qu'il a quand même toujours que 25 ans, donc l'usure, j'y crois pas une seule seconde.
Ah bon.
C'est d'être sur un côté. C'est un joueur qui perfore, c'est un joueur qui, avec sa vitesse et aussi avec son dribble, il déstabilise les défenses. Et en plus de ça, pour un joueur de côté, il marque beaucoup de buts. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, on le voit en équipe de France, il le fait aussi au Paris Saint-Germain. Il revient au milieu de terrain, il marche, il prend le ballon, arrêté, il ne sert strictement à rien. Il pense être à la fois Messi, Neymar et Mbappé. Ben non, c'est pas possible qu'il reste Mbappé et il faut qu'il reprenne sa carrière de ce point de vue-là. Sinon, ce sera inquiétant parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il essaie de jouer un jeu qui lui convient pas du tout.
Antoine, donc tu es aussi inquiet que moi.
Ah oui, je suis inquiet parce que je pense qu'il a énormément ou beaucoup trop d'influence sur ses entraîneurs, que ce soit en club ça, et aujourd'hui en équipe de France. On fait tout
peut-être
pour Kylian Mbappé, même quand il est à la rue, même quand il a le nez cassé, même quand il n'est pas capable de jouer en débordement. Bah, en fait, il a déstabilisé un petit peu tout le secteur offensif de l'équipe de France.
Antoine, vous qui l'avez vu, suivi, le capitaine des Bleus, comment le voyez-vous ?
C'est bien de le présenter comme capitaine des Bleus, Annie, parce que c'était sa première compétition avec le brassard. Il était attendu à ce tournant-là parce que c'est un poste qu'il avait voulu. Il avait fait pas mal d'appels du pied. Il a cherché à obtenir ce brassard et au final, on n'a pas vraiment vu le capitaine Mbappé. On a vu un joueur un peu perdu qui n'a pas été d'une grande influence dans les moments un peu difficiles, alors que c'est ce qu'on attend d'un capitaine. Alors, il est à l'origine de certains buts français, d'ailleurs de l'immense majorité des buts français, notamment avec son centre hier pour Randal Kolo Muani. Mais on attend évidemment beaucoup plus d'un joueur comme ça. Et en fait, il y a deux choses. Sur le terrain, on ne sait pas exactement ce que lui veut faire. Et Étienne le disait relativement bien. Et dans les coulisses, est-ce que c'est pas un capitaine un peu trop encombrant pour Didier Deschamps? Parce que Didier Deschamps s'était habitué à Hugo Lloris, qui était un soldat, qui était un capitaine, qui était un capitaine relais pour lui. Sauf qu'on a senti Didier Deschamps cette fois-ci un petit peu dépassé par son propre groupe, parce que à l'époque où Hugo Lloris était capitaine, tout le monde rentrait dans le rang et ça avait été reproché à l'équipe de France au Qatar en 2022 de ne pas s'être positionné par rapport aux droits humains. Et là, Didier Deschamps a été obligé de laisser faire. Alors c'est Marcus Thuram qui a lancé la première banderie, mais Kylian Mbappé a enchaîné. Et on a du mal à imaginer que Marcus Thuram se soit lancé dans des positions politiques sans en avoir averti Kylian Mbappé au préalable. Donc on a senti un Deschamps peut-être pour la première fois un petit peu dépassé par son propre groupe. Et c'est certainement une des inquiétudes qu'on peut avoir au-delà simplement du jeu et du non-style Deschamps.
En tout cas, Didier Deschamps, justement, on entend beaucoup de bilans, de critiques aussi. Restera-t-il ? Reste ou pas ? Écoutons, c'était hier soir. Alors, Philippe Diallo, avant que vous ne lui parliez tout à l'heure, Étienne Moati. Philippe Diallo, il félicitait tout le monde. Il leur souhaitait, en gros, bonnes vacances. Mais écoutons.
Je ne veux pas banaliser le fait d'être dans une demi-finale d'un tournoi aussi relevé que l'Euro. Ça reste une grande performance. Alors bien sûr, j'avais rêvé qu'on aille jusqu'à dimanche, ce 14 juillet qui semblait écrit pour nous. Et donc je vais vous dire à tous que ce résultat, même s'il nous déçoit ce soir, il a fait honneur au football français. Alors maintenant, on va se séparer. Je vous souhaite à tous de pouvoir vous reposer, qu'ensemble, on a encore des belles pages d'histoire du football à écrire. Et je sais que dans l'avenir, avec l'unité que vous avez montrée, avec le talent que vous avez, avec la solidarité que vous avez eue durant toutes ces semaines, des trophées, on en remportera. Merci, messieurs.
tous ensemble, Étienne Moati, et il vous l'a confirmé tout à l'heure au téléphone, Didier Deschamps, qui a un contrat jusqu'en 2026, reste.
Oui, ce n'était pas une immense surprise. C'est vrai que l'objectif qui lui avait été donné à Deschamps, c'était le dernier carré. Donc, il est en demi-finale. Donc, il y a une forme de logique. Et en plus,
mission accomplie.
Il a un contrat jusqu'en 2026. Et en plus, Philippe Diallo va tenter de rester président de la fédération. Donc, en décembre prochain, ce n'est pas le moment de lancer une crise qui, pour le coup, n'a pas lieu d'être. Après, est-ce que Deschamps lui-même peut considérer que 12 ans, c'est beaucoup, 14 ans, ce sera un peu trop? Pour l'instant, on n'a pas ce sentiment-là. Il est là et bien là.
Antoine, vous qui le suivez depuis si longtemps, Didier Deschamps, quel est votre sentiment?
Hier, il a été très incisif quand la question lui a été posée. Il a demandé à ce que la presse le respecte. Il a pas aimé la question parce que elle est arrivée peut-être un petit peu tôt, mais aussi parce que lui considère que une demi-finale, c'est une bonne performance, ce qui se conçoit effectivement. Vous êtes dans les quatre meilleures équipes européennes, c'est quand même pas rien. Après, il va y avoir une analyse, évidemment, comme à chaque fin de compétition, il va peser le pour et le contre, mais a priori, je ne le vois pas pousser l'autocritique jusqu'à se couper sa propre tête, d'autant que il y a une Coupe du Monde au bout, qui sera sur un format un petit peu inédit. Il a certainement envie de la jouer parce que c'est un compétiteur, et surtout, Didier Deschamps, il est jamais meilleur que quand il est au pied du mur. En tout cas, il travaille jamais autant qu'à partir d'un échec. Donc, il peut peut-être bâtir à partir de là. Après, il va falloir prendre des décisions très très fortes, c'est très clair, et son futur mandat sera ces deux dernières années vont être très scrutées.
Ibrahima, c'est souvent ça le problème pour les sélectionneurs, et on se souvient du sélectionneur de l'Espagne après 2010, on se souvient du sélectionneur de l'Allemagne après 2014.
Exactement, le syndrome Löw.
Voilà, renouveler un groupe, c'est compliqué aussi des fois pour un sélectionneur.
Oui, c'est compliqué, mais sauf que là, il a quand même à disposition un vivier exceptionnel de joueurs qui déjà jouent dans l'équipe. Ensuite, des jeunes joueurs. C'est-à-dire que il y a quand même de quoi faire pour Deschamps. Moi, la seule chose qui me dérange, et ce que je comprends pas, mais maintenant je pense le comprendre un petit peu, c'est que quand on demande aux joueurs c'est quoi l'objectif des Mbappé, des Griezmann, ils vous disent c'est d'aller au bout. Mais quand Deschamps, il dit jamais c'est d'aller au bout, alors que l'objectif principal, désolé, quand on est l'équipe de France et qu'on a cet effectif-là, pour moi, l'objectif principal, c'est de gagner la compétition. Arriver au dernier cas, arriver dans le carré final, je ne vois pas bien qu'est-ce que ça apporte pour une équipe de ce niveau-là s'il n'y a pas la gagne au bout.
Si ce n'est pas pour aller jusqu'au bout. Le syndrome Joachim Löw ?
Oui, quelque part.
Alors, Joachim Löw est un sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, championne du monde 2014.
Oui, à partir d'un certain nombre d'années, un sélectionneur ne se remet plus jamais en question. Il va invoquer des faits de jeu contraires, des blessures, des suspensions, la malchance, l'avare, tous ces trucs-là. Il se repose essentiellement là-dessus. Je pense qu'il s'enferme dans des bulles. Mais c'est propre à tous les sélectionneurs. Je l'ai vu avec Van Gaal, on l'a vu justement avec Luis Enrique, qui ne comprenait pas Joachim Löw, tous ces sélectionneurs-là. Donc, sur le principe, au niveau de l'état d'esprit, Deschamps, il n'est pas différent des autres. La chose la plus importante, c'est l'osmose qu'il a su créer avec ce groupe. Là, c'est un point très très fort, positif pour Deschamps. Ses joueurs le suivent. J'avais été frappé par ça en 2022, quand on était sorti de la finale et tout. Il a été extrêmement critiqué, Deschamps. Zidane devait arriver, c'était, on nous l'avait promis. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et je pense que parce que les joueurs le soutiennent. Là, il y a une élimination qui change beaucoup de choses, à mon avis, parce que perdre au tir au but ou ceci, cela et tout, là, ils ont vraiment été baladés, les joueurs de l'équipe de France. Il y a quelque chose qui fait que, quelque part, on n'est pas dans la bonne direction. Ensuite, la dernière chose, j'en ai parlé tout à l'heure, au-delà du style Deschamps ou du système Deschamps, il n'y en a pas, ça n'existe pas, il y a son équipe. Je pense qu'on est en train de perdre Griezmann, j'imagine pas du tout, je me trompe peut-être, j'imagine pas du tout Griezmann disputer la Coupe du Monde 2026.
Il l'a dit hier soir, hein, pourtant.
Ah non, mais ils veulent, mais c'est le syndrome Löw aussi, ils veulent aller au bout, hein, je veux dire, De Saïr, à l'Euro 2004, il est complètement cramé, complètement bouilli, mais bon bref, le truc c'est que, comment dire, j'ai l'impression qu'il s'accroche. Tant qu'il a le soutien des joueurs, mais là, on va voir très très vite, par exemple, des éliminatoires ou des matchs où, si ça risque de coincer, Si les résultats ne suivent pas, ça va être compliqué. Mais moi, j'ai peur qu'ils s'accrochent.
Et Antoine suivra tout ça encore et nous le racontera, n'est-ce pas, Antoine?
On verra ça.
On verra ça.
Mais c'est clair qu'il y a un aspect intéressant, c'est que lorsque Noël Le Graët était président de la fédération, il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre lui et Didier Deschamps. Une fois réélu, est-ce que Philippe Diallo aura cette même osmose avec son sélectionneur? Ça sera un des dossiers à suivre également, parce que quand vous êtes président de fédération et que vous voyez que votre sélectionneur ne va pas dans la bonne direction, vous avez des décisions à prendre aussi par rapport à ça. Donc, ouais. Philippe Diallo, une fois réélu, pourrait être moins timide par rapport au sort de Didier Deschamps. On verra, ça sera intéressant à suivre.
Voilà pour ce qui est donc de ces Bleus qui sont en vacances et qui ne disputeront pas la finale avec l'Espagne et donc avec l'Angleterre, Salim.
Toujours important de préciser.
Hein, l'Angleterre qui s'est qualifiée ce soir à la régulière et dans
sans
le temps réglementaire. Sur le score de 2-1 et avec un très beau but de Watkins.
Absolument. Oli Watkins, c'est vrai qu'il entre en jeu quelques minutes auparavant en remplaçant Harry Kane. Et lancer comme ça dans la surface d'eau au jeu, réussir ce contrôle orienté et frapper aussi vite, croiser ras de terre à la 90 plus 1e minute, c'est exceptionnel. Et l'Angleterre, sincèrement, sur ce match, en tout cas, mérite. Autant sur d'autres matchs du tournoi, je n'aurais pas dit ça. Mais là, sur cette rencontre, mérite. Parce que les Pays-Bas ont eu quelques opportunités sur coup de pied arrêté. Mais dans le jeu, ils n'ont pas été non plus transcendants, malgré le but marqué par Simmons. Victoire logique et méritée. Oui, l'Angleterre va disputer de nouveau une finale.
Alors, l'Angleterre est qualifiée. L'Angleterre mérite. L'Espagne aussi.
Ah oui, j'ai regardé hier France-Espagne. Cette équipe
Vous
était incroyable.
Vous étiez au stade, n'est-ce pas, à Dortmund?
Mm-hmm. J'étais au stade, invité par un ami que je remercie d'ailleurs, qui est Jean-Pierre. C'était magnifique. Et cette équipe n'a joué que 45 minutes, pour vous dire. Les 45 dernières, elle faisait de la possession défensive. Elle faisait courir les Français, faire circuler le ballon.
Et tomber un peu par terre.
Elle ne voulait pas attaquer, mais...
Elle n'avait pas besoin d'attaquer.
Exactement.
Oui, donc elle mettait la panique immédiatement dans le camp adverse.
Là où Yoro a raison, c'est que ça, c'est de la maîtrise.
C'est
réussir
ça.
À maîtriser comme ça son adversaire, c'est-à-dire avoir tranquillement la balle et donc empêcher l'adversaire d'avoir le ballon. La seule fois où ils ont eu peur, c'est lorsque Kylian Mbappé avait réussi son crochet à la 86e et frappé au-dessus. C'est le seul moment où l'Espagne a tremblé. Sinon, au final... Soyons honnêtes, l'Espagne a été relativement sereine quand même.
Et alors, cette finale, aura-t-on un coup de griffe anglais contre les Espagnols, la Roja, Yoro?
C'est possible, parce que quand même, perdre deux finales d'affilée, je ne vois pas cela. Pour moi, l'Angleterre va gagner cette coupe.
Je voudrais tellement vous suivre. Pays-Bas, je vous vois en orange, les Pays-Bas l'ont fait, 74 et 78. Non mais... Encore une fois, dans le jeu, on va être très clair, et nos auditeurs suivent très bien cet euro, évidemment que l'Espagne dans le jeu, c'est beaucoup plus étincelant, il y a un jeu collectif, quoi. C'est huilé, c'est tout ce qu'on
et
veut.
Et puis il y a quand même Lamine Yamal, citons-le, et citons Nico Williams.
D'ailleurs, on voit qu'il y a un côté droit très fort dans de nombreuses équipes. L'Espagne, Angleterre, Yamal, et vous pouvez avoir soit un Bukayo Saka, soit un Phil Foden, lorsqu'il va sur ce côté droit, c'est quand même deux monstres potentiels. On a des lignes offensives intéressantes. Après, encore une fois, l'Espagne a un collectif qui est bien
plus... Mais la différence entre la France et l'Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup plus de talent devant chez les Anglais. En France, à part Mbappé, Thuram, Kolo Muani, j'ai rien contre eux, mais ce n'est pas Foden, ce n'est pas Bukayo Saka, ce n'est pas Harry Kane, c'est...
Et vous aurez l'occasion de l'évoquer dans les prochaines heures, prochains jours dans Radio Foot. Mais est-ce que l'Angleterre va jouer comme aujourd'hui dans ce système de jeu-là, notamment dans ce système de jeu qui a marché aujourd'hui, contrairement aux autres jours où il y avait un autre système? Est-ce que Gareth Southgate va essayer ou va se dire, encore une fois, contre l'Espagne, non, là, je ne vais pas prendre de risque, les gars, je vais bien défendre et aller jusqu'au tir au but comme il y a 3 ans? Et perdre ou pas, ça, je sais pas. Ça.
Bon, c'est vrai que perdre une finale au tir au but, c'est toujours très cruel.
Et l'Angleterre le fait bien trop souvent.
Oui, oui, il y en a beaucoup des finales de grandes compétitions qui se terminent.
Pas faux.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents ce soir.
L'Angleterre est en finale.
Et l'Espagne aussi. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dans Radio Foot International.